Papa Buck vous a concocté un menu typique de la région. Ouais. Avec en entrée, sa fameuse soupe aux cailloux.
CO2, mon amour.
Alors, surtout, il ne faut pas manger le caillou.
Et peut-on savoir, Monsieur Buck, à quoi sert ce caillou minéral?
À brasser, à mixer pendant la cuisson cette merveilleuse soupe.
Voilà. Voyez les enfants, c'est passionnant de s'intéresser à d'autres cultures.
N'y goûtez pas, c'est un fait.
Trop tard.
Denis chez Sou.
Ah, effectivement, je sens un arrière-goût assez prononcé. Un peu comme de la terre.
Écoutez, c'est normal, de toute façon, on ne peut pas tout enlever. Il y a toujours des petites caillasses qui traînent.
Bonjour à tous et excellent appétit sur France Inter, CO2 Mon Amour, l'émission qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature, avec aujourd'hui Alice Berger et Stéphane Bojart à la technique. Sophie Saliobari nous accompagne également et assistée de Camille Blanès, c'est Xavier Pessugia qui réalise l'émission. Je n'oublierai pas non plus l'apport de Albert Houck. Et nous allons débuter par une actualité, on va dire, un peu sous forme de bout rouge. Vous avez dû déjà en entendre parler. Approchez, regardez comme elle est belle ma boue, de la vraie boue, pas grise, marron ou noire, non, colorée, orangée. Elle brille sous le soleil, elle brille sous le regard. Oui, elle danse, oui, elle bouge. Elle a même appris à nager dans la Méditerranée, ma jolie boue rouge, made in France. C'est de la vraie, de la bonne. Et donc, elle a des joues rouges. Elle a l'accent du Midi, de Gardanne, de Bouc-Bel-Air. Elle bronze, ses mollets s'étalent au soleil. Oh non, elle ne fait pas la fière. C'est de la gentille boue rouge. Alors, c'est pas une gamine, hein, parce qu'elle a soufflé ses 51 ans de ses 51 bougies. 1893, ça, c'est la vraie date de naissance. Et depuis 1966, elle en a usé des tuyaux. Bon, je vous raconte très vite son histoire actuelle, hein. Après un joli bout de canicule au mois d'août, patauger dans la boue n'est plus qu'un lointain souvenir. Sauf au large de Cassis. Et cette semaine, au sein d'une partie du gouvernement, on a pataugé aussi. Dans les deux cas, la boue y est envahissante et prend la teinte rouge de la colère entre Madame Royale et Monsieur Valls. Cette colère déborde désormais à ciel ouvert, moins discrètement que le contenu d'un pipeline long de 55 km, dont 7 en mer, qui déverse gaiement au quotidien les 5% de résidus liquides après filtrage en pleine mer à 320 mètres de fond. Vive l'usine Alteo, implantée dans la ville de Gardanne, ville rouge également. Entre Royal et Valls, l'une a la sensibilité écologique, l'autre tauromachique, et les boues, normal, ça fait chiffon rouge. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'éviter quand même de tels agissements? Un industriel n'est-il pas responsable des déchets que son activité produit? Bon, comme vous y allez, mon cher. Vous pensez que c'est gratuit, tous ces processus de traitement imposés par une déréglementation tatillonne? Hein, vous croyez sans doute qu'un fonds de pension états-unien, quand il a la bonté de posséder une usine, a du temps et de l'énergie à perdre pour trouver le procédé miracle conduisant au zéro déchet? Et puis dites-moi quand même, mon brave, vous voulez renoncer à vos écrans plats, à cristaux liquides, à vos dentifrices? Ah bah oui, parce qu'il y en a dedans de l'alumine. À nos sous-marins qui réclament aussi leur béquet d'alumine premier choix produite par Alteo? Ah bah oui, ah bah faut être cohérent, ah c'est comme ça. Et puis si on commence à empêcher les gens de travailler sous prétexte qu'ils font crever les poissons, on n'a pas fini. Vous croyez que c'est mieux d'avoir 1000 personnes en gros, hein, de plus au chômage, hein? Et les électeurs, vous croyez que ça vote pour un rouget, pour une dorade? Alors franchement, est-il de bon ton de se fâcher pour si peu? Qui aujourd'hui se mettrait en rogne pour quelques millions de tonnes de substances toxiques rejetées dans ce qui reste la poubelle idéale, à savoir la Méditerranée? Bon, alors c'est sûr, le déversement s'effectue au beau milieu du parc national des Calanques. Et alors, la pollution perdure depuis 50 ans, bagatelle. Et alors mieux que ça, depuis le 28 décembre dernier, ce rejet s'effectue avec la bénédiction du préfet des Bouches-du-Rhône. Pécadille! Les poissons pêchés dans ce secteur pollué, étendu comme 10 fois la ville de Marseille, ne seraient qu'à peine consommables. Allez, du calme, les intoxications au mercure, c'est bon pour les pêcheurs de la baie de Minamata au Japon. Nous, c'est pas pareil. Hein. Non, ce qu'il nous faudrait plutôt, c'est plutôt que de rechercher et éradiquer ces malheureuses boues rouges, ce serait plutôt d'en dénicher d'autres. Oui, un filon de boues nouvelles, des blanches et des bleues aussi, avec des boues aux couleurs du drapeau national. À n'en pas douter, le pays serait sauvé. Et pourtant, la boue, c'est la vie. La boue, c'est de la terre et c'est de l'eau du ciel. Ça colle, ça s'agrippe, ça fait floc sur les bottes des enfants, ça fait bloc sur celles des éléphants. Ça fait tache quand on dit « Ah, j'ai été traîné dans la boue ». Et pourtant, oui, la boue, c'est la vie, c'est bien la vie des hirondelles, qui en habile maçonnière s'en font des petits nids. Nids des hommes aussi, à colombage, pisée, terre glaise, de la boue qui, entre les mains et l'intelligence humaine, se pétrit à l'aise. Alors ne soyez plus vent debout en criant « Haro sur les boues !» Mais la boue rouge, au fait, c'est ma boue ? Non, c'est ta boue. Voilà. Bonjour, cher Frédéric Danhé.
Bonjour, Denis. Très belle chute. Bravo.
Bah, youpi. Voilà. Bah, oui, c'est tabou, c'est ma boue. C'est venu comme ça. Vous savez ce que c'est.
Mais je sais.
Un petit peu d'eau dans un verre, et puis on a des idées. Donc, Frédéric, donc, avec nous, qui intervient régulièrement, vous le savez, depuis des années dans cette émission, qui est un peu notre monsieur décrypteur de l'actualité. Bon, vous connaissez évidemment ce sujet, quoi. On voit bien que c'est quand même très, très compliqué.
Hein. Et puis, en plus, j'ai plongé dans le coin. C'est le genre de dossier indémerdable où tout le monde a raison. Il y a 650 emplois, voire 1000. En même temps, il y a une pollution rémanente, il y a une pollution importante, il y a une réelle toxicité, on le sait. Qu'est-ce qu'on fait ? Ben moi, je ne sais pas. Je ne voudrais pas être à la place des élus nationaux.
La fin septembre, si on en parle aussi, c'est parce qu'il y a évidemment une prise de bec entre Ségolène Royal, donc qui elle est vraiment de vent debout, quoi, de dessus. Et puis donc, Manuel Valls sur le sujet. Mais fin septembre, on devrait avoir encore une indication. L'ANSES a déjà sorti un rapport en disant que même dans ces 5% de résidus liquides...
Il y a ce qu'il y a de plus toxique, ce qui est assez logique. Après, on peut toujours dire c'est à 300 mètres, il y a peu de vie, etc.
Bon, il n'y en a plus, à 320 mètres.
Il n'y a plus grand-chose. Après, il ne faudrait quand même pas que ce dossier devienne la victime expiatoire d'une pollution rémanente en Méditerranée, avec de multiples sources. Et voilà, ce n'est pas parce qu'on aurait réglé le problème des boues rouges qu'on aurait réglé le problème des pollutions. Moi, j'ai l'impression que
c'est-à-dire qu'on n'a pas réglé encore totalement le problème de Marseille, et on n'a pas réglé non plus la sortie du Rhône.
Eh ben non, et ça, de toute façon, le Rhône charrie bien plus. Ben non, c'est vraiment le genre de... Je voudrais pas être à la place des politiques, et on le voit bien avec toutes les contradictions, le maire de Gardanne, qui est un maire écolo, est pour.
Non, c'est le député.
Pardon, le député.
Monsieur Lambert.
Voilà, Monsieur Lambert. Il est pour. Alors, ben voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse d'autre ?
Ben, il sera pas élu, sinon.
Ben oui.
Ben voilà.
Bon, donc... Oui, c'est vrai, ça, j'ai pas pensé. Hein
bon, au menu, moi, je vais vous emmener dans un très joli lieu du département de l'Isère. Ça va être notre reportage nature, mais avec vraiment des actions tout à fait positives dans le Trièves. Nous allons aussi avoir, suite à notre appel de la semaine dernière, découvrir une petite start-up qui s'occupe des déchets de cantine. Et puis, avec Frédéric, donc on va faire
un peu de biodiversité dans le monde et en France, et un peu d'IT. Vous savez ce que c'est l'IT ? L'isolation thermique par l'extérieur. C'est un peu compliqué.
Bien.
Allez bien, on va déconner. On va se laisser aller au propre et au figuré. On va déconner. On va déconner. On peut pas passer à côté d'un jour en été. On pourrait le regretter des millions d'années. Des millions d'années. Baisse un peu la télé, on va chahuter le canapé. Chahuter le canapé. Allez viens, on va déconner, on va se laisser aller. Au propre et au figuré, on va déconner. On va déconner. Du péché, la pomme du péché. réfléchir. Dans ce motel isolé, au fond d'un trou perdu, on pourrait recommencer tout ce qu'on a vécu. Tout ce qu'on a vécu.
Je ne sais pas si parler que de la planète, mais enfin, c'était On va déconner, c'était Charles-Élie Couture sur France Inter. Bon, oui, c'est un bébé inter aussi, Charles-Élie Couture. Tenez, pour se lancer, pour parler de la biodiversité mondiale, qui n'est pas exactement en pleine forme, puis après de la biodiversité en France avec cette loi sur la biodiversité, écoutez.
D'abord avancer les girafes, et puis les vaches et les chevaux, les crocodiles et les les hippopotames et les chimpanzés, rangez-les-moi bien dans le ventre de l'arche de Noé. Les hommes nous ont gonflé la tête avec les guerres et la misère et la bêtise. Alors on a décidé le déluge, et les animaux. C'est pour ça qu'on a fait l'arche de Noé.
Voilà, donc c'était Nino Ferrer qui aimait pas mal la nature et qui l'a terminé malheureusement dans le Lot, dans le Quercy blanc. Tout ça pour lancer effectivement ces propos sur la biodiversité mondiale. Frédéric Danhé, donc qui disparaît à grande vitesse, c'était donc un article de Martine Valo, puis aussi de d'autres membres de la presse. C'était au début septembre là cette semaine. Bon, donc l'Union internationale pour la conservation de la nature tire quand même un sacré signal d'alarme. Alors c'est régulier cette affaire là, mais quand même.
Ben oui, rapport après rapport, c'est de pire en pire. Donc Martine Valo du Monde a montré les chiffres. Un tiers des espèces connues seraient menacées, surtout les espèces sur les îles, surtout les espèces liées aux zones humides qui sont les plus embêtées, et puis les espèces patrimoniales, celles des livres d'enfants de l'Atulu Montilou. Hein, on se rend compte que malgré les interdictions, malgré le contrôle du trafic des produits issus de l'abattage de ces animaux, eh bien les éléphants, les rhinocéros, par exemple, sont des espèces qui sont sérieusement menacées maintenant de disparition à l'échelle d'un continent. Et puis, parmi les espèces patrimoniales, celles de notre enfance, bah, y a les singes, les grands singes, c'est-à-dire notre miroir dans l'évolution, celles avec qui nous partageons un ancêtre commun, celles dont les enfants, on peut parler d'enfants, ressemblent tant aux nôtres. C'est extrêmement troublant de voir que notamment en RDC, en Afrique centrale, sans doute les grands singes, notamment les bonobos, notamment les gorilles, risquent de disparaître à la fin du siècle. Moi, je n'imagine pas que tous ces animaux puissent disparaître, pourtant on en prend le chemin. Alors pourquoi ? À l'échelle du monde, on le sait, hein, c'est le braconnage, c'est, pour ce qui concerne la mer, la surpêche, et puis c'est, un peu comme chez nous, c'est l'agriculture, c'est juste la concurrence pour la terre entre l'homme. Et les espèces sauvages, l'homme a besoin de terre pour manger, pour faire l'agriculture. Alors chez nous, c'est pas tout à fait la même raison. C'est pas la chasse, c'est pas la pêche, c'est aussi l'agriculture. En gros, c'est l'aménagement du territoire qui fait que les milieux naturels sont tronçonnés et que, on en a souvent parlé dans cette émission, Monsieur Renard ne peut pas aller voir Madame Renard pour lui faire des renardos. Voilà, la cause principale en France, dans les pays riches occidentaux, c'est celle-là.
Bon, et puis évidemment, il y a aussi la viande de brousse. Lorsque l'on parle effectivement dans ces pays qui sont pas exactement aidés, c'est leur quotidien.
Donc les ouvriers. Dans les chantiers forestiers, oui, pour se nourrir, abattent des gorilles.
Je peux vous envoyer d'ailleurs sur la nouvelle formule de Terre Sauvage, là, qui a changé de formule, et c'est drôlement bien. Ils ont écrit donc un bel article sur la planète des singes, donc c'est un tour du monde inédit, avec des primates méconnus. Donc il y a ceux que nous connaissons, ouais. Donc c'est ce que vous avez cité, Frédéric, mais aussi ce sont d'autres primates, et je vous renvoie vraiment sur ce Terre Sauvage du mois de septembre. Ça nous amène maintenant en France, on déplace le curseur, on le met sur la loi sur la biodiversité qui a été votée donc au mois de juillet. Bon, c'était un long dialogue entre les différents utilisateurs de la nature, mais on a quand même des avancées intéressantes.
On a des avancées, notamment des avancées sémantiques. La biodiversité telle qu'elle est définie dans l'article 1 prend en compte les interactions entre les espèces. Et ça, c'est fondamental. On a toujours tendance à croire que une fois qu'on a protégé l'éléphant, on a préservé l'éléphant. C'est pas vrai. L'éléphant n'est protégé que si son habitat est protégé. Un animal ne vit jamais seul. Il a besoin de son environnement et des espèces qui vivent grâce à côté de lui. Ben voilà, le fait d'introduire cette notion d'interaction montre bien à quel point la biodiversité, c'est un ensemble. C'est quoi, pour faire court pour nos auditeurs? C'est juste nos paysages. Nos paysages sont issus d'un dialogue permanent entre la nature, des milieux naturels et des agriculteurs qui les ont transformés. La biodiversité d'aujourd'hui, c'est ça. Ce sont des milieux artificiellement naturel. Donc il y a ça, il y a la protection par exemple des chemins ruraux, il y a la protection des allées d'arbres le long des routes, ça c'est de la biodiversité du quotidien. Il y a cette notion très importante de préjudice écologique qui existait déjà dans le code rural mais qui là prend une importance symbolique nettement plus grande avec son introduction dans le code civil qui est imposée par la loi. Il y a ce fameux principe ERC, éviter, réduire, compenser, qui impose aux aménageurs de, si vous n'arrivez pas à éviter les désordres dans l'environnement, vous serez obligé ou de les réduire, si vous n'y arrivez pas, de les compenser en nature, c'est-à-dire que vous restaurez, un terme technique, la fonctionnalité des écosystèmes, vous abîmez une zone humide ou bien vous en restituez une, ou vous faites en sorte de mettre en eau un autre écosystème qui aura à peu près la même fonction. Et puis si vous n'y arrivez pas, ben, la loi s'impose à vous, la loi biodiversité est opposable à votre projet, et votre projet, ben, vous pourrez le remballer. Derrière tout ça, il y a le principe de non-régression, un milieu naturel ne peut pas régresser en termes de biodiversité.
Alors ça, c'est sur le papier, c'est dans la loi, oui. Donc c'est extrêmement important, mais il y a aussi eu de la part du milieu agricole une demande de compensation, et qui là, bah, est plutôt une compensation monétaire. Parce voilà. Que c'est-à-dire que si on doit leur piquer tant d'hectares pour faire passer une infrastructure quoi ou qu'est-ce, ils se disent, bon, on ne va pas forcément la récupérer ailleurs, donc il nous faut de l'argent à la place.
Alors ça, c'est amusant, c'est une vue d'esprit, c'est pas si amusant que ça. De façon générale, quand on compense un aménagement, quand on compense de façon écologique, on va le compenser sur des terres agricoles. Or, on sait en France, on l'a assez dit dans cette émission, qu'on manque de terres agricoles à cause de l'aménagement du territoire et à cause de cette compensation écologique dans certains cas. Et donc, les agriculteurs demandaient à ce qu'il y ait une compensation en numéraire qui viendrait abonder un fonds permettant de rétablir l'équilibre compte tenu du fait que ces aménagements entraînent un préjudice socio-économique pour le monde agricole au sein d'un territoire.
Alors, pour l'évaluer, ça va être quelque chose.
Pour l'évaluer, on ne va pas y arriver. En plus, ça existe un peu déjà. C'est un mécanisme, ouais. C'est une taxe qui est la taxe sur la plus-value sur les terrains agricoles devenus constructibles. Enfin, en tout état de cause, ce qu'il ne faudrait pas, c'est que la compensation écologique soit inclue dans la compensation agricole. Par exemple, vous, Denis, vous avez un champ de céréales, et puis parce qu'un aménageur autoroute... Hein, vous en avez beaucoup.
Moi, j'ai 400 hectares.
Vous avez 400 hectares. Donc, évidemment. On veut faire passer une autoroute à 50 km de chez vous, et l'aménageur ne trouve pas de terrain, il va vous imposer, en compensation écologique, de laisser 10 hectares en prairie, donc de transformer votre champ de céréales en prairie, parce qu'une prairie a été détruite par cet aménagement. Et ça, les agriculteurs n'ont pas envie qu'on leur impose ça. Et donc voilà, il va y avoir une discussion assez amusante entre compensation écologique et compensation agricole. En tout cas, on parlait de situation indémerdable, c'est assez indémerdable cette affaire de compensation agricole.
Ben voilà, donc vous l'avez dit trois fois, donc maintenant vous changez de mot. Et donc on va poursuivre avec la loi sur la biodiversité. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous emmener dans ce très joli coin qui s'appelle le Trièves. Le Trièves, c'est dans le département de l'Isère. Et donc nous sommes au sud de l'Isère. On n'est pas très loin des Hautes-Alpes, mais on est encore donc dans l'Isère. Et on va découvrir des gens qui sont extrêmement actifs.
On est à la limite entre les Alpes du Nord et les Alpes du Sud. On est sur un grand plateau qui est cerné de belles montagnes, puisque ça monte quand même à 2800 mètres à l'Aubiou. Et on est surtout dans un pays vivant. Moi, personnellement, c'est ça qui m'attache le plus au Trièves. J'y vis depuis 35 ans. Et je trouve que c'est sa vitalité qui est déterminante. C'est un territoire agricole, il y a encore 16% d'agriculteurs, ce qui est pas mal du tout par rapport aux moyennes nationales.
Et en plus, des agriculteurs s'installent.
Et en plus, des agriculteurs qui s'installent, soit dans le cadre familial, mais avec beaucoup de modifications souvent, soit des installations nouvelles. Nous avons, sur ces dernières années, nous avons 8 installations d'extérieur par an, sur le Trièves en moyenne, et autant de gens qui s'installent dans des exploitations existantes. Soit de la famille, soit pas de la famille, qui entre dans des GAEC, etc. Et c'est ce bouillonnement-là qui fait la vitalité du territoire.
Alors ce trier, vous imaginez un plateau de montagne, donc vallonné avec des petites plaines agricoles qui sont peignées de cultures céréalières. Et puis vous avez quand même des gorges, évidemment, qui ne sont pas loin. Je vous le disais, on est au sud du département de l'Isère. Le Trièvre, le 3, 1, 2, 3, la Trinité, 3 vallées, 3 cols, 3 routes historiques, le culte là, de la Diane Trieva, peut-être, en tout cas. 1, 2, 3, c'est une valse dans un écrin, dans un cloître de montagne, comme on dit joliment là-bas. Au loin, vous avez le Mont-Aiguille, donc sentinelle du Vercors. Le Vercors est juste à côté. Et c'est un lieu parfait, j'allais dire, pour un roi sans divertissement, pour Giono qui ne s'y est pas trompé, qui s'est aussi inspiré des vraies richesses dans ce territoire. 10 000 habitants, 600 km2, et alors vous avez une centaine d'associations qui sont extrêmement dynamiques. Hein, c'est Noël Chevalier qui me le rappelait, le président du festival Mince Alors. Vous avez la revue que vous connaissez, les 4 saisons du jardinage, donc Terre Vivante, avec cette revue incontournable écologique, s'est installée là-bas depuis donc des années. Et l'homme que vous avez entendu, eh bien, c'était Gérard Lerat, qui est un homme vraiment de conviction et d'action. Nous sommes dans la première zone rurale qui est devenue territoire et énergie positive, la première zone rurale qui a élaboré un agenda 21. Alors nous avons des communes comme Trémigny, c'est très beau, Saint-Sébastien, c'est très joli aussi. Vous avez Mans, vous avez Clèle, enfin il y a toutes celles que j'oublie. Et alors on a sillonné un petit peu donc ce coin du Trièvre. Et on a commencé donc par Laure Collin. Vous allez voir, elle c'est une fermière et elle a repris le travail de ses parents.
Et ben moi je me suis installée en 2011. Ouais. J'ai repris la ferme avec mon père qui travaillait tout seul. Donc on a apporté de nouvelles productions, des poules pondeuses, de ouais. La farine de blé.
Les vaches, on les voit là.
Les vaches, ah, ils ah, les oui. avaient déjà. Et puis on.
Elles sont nées avec les cloches ou non?
Elles sont pas nées avec les cloches, mais elles en ont quand même l'été.
Alors ce qui est intéressant, c'est le circuit court que vous pratiquez.
Voilà, donc on vend 100% de notre production en direct, dans des AMAP, en direct à la ferme, sur la région grenobloise aussi beaucoup.
Et en fait, vous venez de la grande distribution, puis un jour, vous en avez eu marre, quoi. Vous avez complètement changé.
Voilà, donc j'avais quand même ce projet en amont de m'installer un jour en agriculture. J'avais fait une école d'ingénieur en agriculture. Mais effectivement, j'ai travaillé 8 ans comme directrice de supermarché. Et un beau jour, bon, j'ai claqué la porte et retour aux sources.
Philippe Régé, là on est donc chez vous, pas très loin de chez Laure. C'est pas les mêmes bêtes hein, qu'on entend là, non, c'est pas non, les mêmes
c'est
cloches. Là.
C'est des cloches beaucoup plus petites, hein, c'est des bêtes beaucoup plus petites. Donc nous on s'est installé ici en 2010. Nous on s'est installé en élevage caprin, on a 35 ou 40 chèvres ouais. en lactation et on fait de la transformation fromagère. Et on vend tous nos produits aussi en vente directe.
Comme l'or que l'on a entendu. Alors vous venez pas de la grande distribution, mais vous avez aussi cassé avec votre métier d'origine.
On travaillait tous les deux dans une grande entreprise de télécommunications.
Oui, donc Orange, quoi.
Voilà, pour faire simple. Ouais. Et donc, on a été aidé un petit peu par l'entreprise Orange, quand même, qui nous a payé une formation, quand même. Donc, on a trouvé cette exploitation, là, sur le Trièvre.
Vous êtes dit, quand même, à un moment, bon, les chefs, ça peut marcher ici, il y en a déjà eu, ça peut marcher. Quand vous avez fait une étude de marché, quoi.
Oui, on a fait une étude de marché. On a été aidé aussi par la Chambre d'agriculture, quand même. Et on n'a pas vraiment trouvé une exploitation, on l'a créé, l'exploitation. On a trouvé les terres, un bâtiment, et on a créé notre exploitation.
Gérard Chevalier, vous aussi, donc vous êtes un agriculteur sur ce Trièvre depuis longtemps. Ce qui vous passionne aussi, parce que vous avez donc vous des terres céréalières, c'est quand même la transmission. On sait que le problème numéro un, c'est quand même le foncier en ce qui concerne l'agriculture. Mais comment ça se passe et dans quel état d'esprit vous êtes par rapport à cela et à ce paysage que l'on a sous les yeux?
Moi, je suis installé depuis 81 et j'ai laissé des terres à deux agriculteurs, donc un en maraîchage il y a une vingtaine d'années. Et un autre en chèvre, il y a aussi à peu près une vingtaine d'années, pour qu'ils puissent s'installer. Et là, moi, j'arrive bientôt à la retraite, et donc je laisse mes terres à une personne qui est déjà exploitante agricole sur le Trièvre, en ovin et porc, et qui va prendre mon activité farine.
Puis vous ne vouliez pas non plus qu'il y ait un morcellement des terres?
Voilà, tout à fait. Je ne voulais pas un émiettage de la propriété, qui parte 3 hectares chez l'un, 4 hectares chez l'autre, et ainsi de suite.
Ah,
Alors toujours dans ce trièvre, là, on change un tout petit peu de coin. Et puis alors c'est très surprenant parce que là, on voit de la vigne. Alors je vais me tourner, c'est ça qui est curieux, à la fois vers un homme de l'eau et aussi donc un homme du vin. Bonjour Gilles Barbe.
Bonjour.
Alors Gilles Barbe, non je disais homme de l'eau parce qu'en fait vous travaillez chez EDF et vous vous occupez donc d'hydroélectricité.
C'est hein. Ça.
Bon, et donc vous intéressez aussi au vin parce qu'il y a cette association qui s'appelle Vignes et Vignerons du Trièvre. Alors ça, racontez-nous, mais en rappelant que quand même en 1850, il y avait quand même 300 hectares de vignes ici.
Tout à fait, sur toute la vallée qui couvre les contreforts du Drac et de l'Hébron. Ouais. Et du coup, quand on s'est retrouvé en 2008, quand on a créé cette association, on s'est aperçu que l'ensemble des vignes, qui était un véritable patrimoine familial et culturel du Trièvre, était en perdition. Et on a voulu sauver ce qui était sauvable. Donc du coup, on a actuellement permis de sauver 1,5 hectare de vignes anciennes.
Bah, celui qu'on a sous les yeux. Là,
voilà, en se rapprochant des anciens et en allant les voir, en travaillant sur le foncier, en faisant connaître les jeunes de l'association qui étaient partis pour travailler ces vignes pour les anciens.
Donc là aussi, je veux dire, ce côté intergénérationnel, quoi. C'est-à-dire l'expérience des anciens qui connaissaient les cépages, la manière de travailler et les jeunes.
Voire même certains cépages qu'ils ne connaissaient plus, puisque c'était encore... très ancien. Donc l'objectif de l'association, c'était aussi de réimplanter des vignes nouvelles avec des cépages anciens et de permettre l'installation de jeunes vignerons pour créer une véritable filière économique.
Quels sont les noms? Ça va être des jolis noms, les noms de cépages.
Alors les noms, c'est Persan, Étraire de la Duye.
Étraire de la Duye.
Oui, tout à fait. C'est un cépage du Grésivaudan et il y a une rivière qui s'appelle la Duye et c'est l'Étraire. Et il y a aussi la Douce Noire, voilà. L'Altesse. C'est très poétique tout ça. On
c'est
va très beau. Pouvoir faire un poème là-dessus.
Ouais, ouais, ouais. Anne Parlange, je vais me tourner vers vous parce que on est sur un territoire, comme on dit, donc en transition. Puis vous êtes donc à la tête de Esprit Trièvre et puis de Quelle Foire donc qui va arriver là d'ici quelques jours. Alors comment ça se passe ici quand on parle de transition?
En fait, le Trièvre, c'est un territoire sur lequel il y a beaucoup de gens qui sont restés ou d'autres qui sont arrivés et qui ont cherché, pour un certain nombre d'entre eux, à créer une dynamique qui leur permette de vivre, mais aussi en cherchant d'autres formes de solidarité, d'autres façons de vivre, plus humaines probablement. La foire de la transition qu'on organise maintenant depuis 4 ans, l'idée c'était de réfléchir en commun sur ce qui allait dans le sens de la transition, comment est-ce qu'on fera pour vivre demain. Et puis en portant certaines dynamiques collectives comme par exemple La Petite Marmite, qui est une association sur le Trièvre qui fait des repas solidaires. Il y a aussi l'Épouse Verte qui, elle, fait des jardins partagés sur Mince en mêlant aussi les générations, les enfants, les personnes âgées et puis les adultes. Et qui, elle, nous prépare quelque chose de très important sur la notion de jardin vivrier, jardin de résistance.
Parlez-nous aussi de ce qu'on appelle les centrales villageoises. Cette fois-ci, on s'intéresse à l'énergie.
Là, c'est un projet avec plus d'ambition qui vise à en fait produire de l'énergie. Et le but de l'association qui a monté ça, et qui est aujourd'hui une société, c'est effectivement d'équiper des toits en solaire. Donc,
avec et ça commence, c'est parti, là, on en voit là déjà.
Oui, mais alors il y a des démarches individuelles, bien entendu. Oui. Mais là, on est sur une démarche collective, de société collective, avec des parts de capitaux qui sont prises pour investir sur des toits solaires et sur ensuite la consommation d'énergie.
Ça veut dire que chacun donc, peut investir dans cette affaire.
Tout à fait.
En ce qui concerne la transition aussi énergétique d'un point de vue thermique.
Les collectivités locales, à travers la communauté de communes, portent aujourd'hui un programme qui a été initié il y a déjà un mandat pour faire du Trièvre un territoire à énergie positive. Et dans ce cadre-là, on a une grosse opération de rénovation thermique sur les bâtiments et notamment la signature de la 100e convention. Donc le 100e particulier qui est rentré dans le programme pour rénover sur le plan thermique son bâtiment avec l'aide des artisans locaux qui ont été formés pour cette rénovation thermique.
Concrètement, c'est quoi? C'est des subventions? Ce sont des aides?
Ce sont des subventions qui sont apportées au territoire pour intervenir notamment sur l'amélioration thermique dans les bâtiments privés, mais aussi aujourd'hui publics, puisqu'il va y avoir un programme sur les bâtiments publics qui démarre prochainement. Il y a un travail sur les vélos, puisque nous sommes une région où équiper en vélo électrique est quelque chose qui semble pertinent. On n'a quand même pas une topographie facile pour le vélo pour un certain nombre de gens. Et puis, il faudrait, mais ça, c'est dans les objectifs du territoire TEPOS, quand on lit le catalogue des intentions, mais je trouve qu'on n'y travaille pas encore suffisamment, il faudrait veiller à la pérennité de la ligne ferroviaire Grenoble-Gap.
Et qu'il n'y ait pas de doublon forcément avec l'écart, parce que j'ai vu ça, j'ai vu des horaires, vous avez le train qui passe et 5 minutes après vous avez l'écart, donc évidemment que ça ne peut pas coller là.
Ben, ça ne peut pas coller, mais alors on a une petite chance, c'est qu'aujourd'hui, après la loi NOTRe, il y a unité d'autorité, enfin en termes de compétences, c'est la région qui regroupe ces compétences-là. Est-ce que pour autant ça ira où et comment, je ne sais pas.
Vous avez vu, en fait, déjà depuis le début, on n'a pratiquement pas employé le mot d'écologie et d'environnement. Ça va de soi, ça, Anne ?
Quand on vit ici, ça va de soi. La manière qu'on a de prendre en compte... Le Trièves est un territoire qui est tellement beau que je trouve que, du coup, on s'y adapte. On n'a pas forcément besoin d'en parler pour en faire tous les jours. On est très nombreux ici à faire son potager. Nous, on est autonome en légumes à l'année. On a envie de le faire de la manière la plus saine possible, simplement parce que c'est nous qui mangeons les produits derrière aussi, ça compte. Et puis on n'a pas envie d'abîmer le territoire et donc on a envie de faire un potager qui est beau. L'écologie, ça commence comme ça. Ensuite, il y a la notion d'entraide. Tout le monde ici se connaît, donc c'est facile quand on a un souci de se retourner vers les autres ou de voir que quelqu'un a un petit problème, ne serait-ce que de voiture un jour ou de frigo en panne. Et donc le dépannage, l'entraide est aussi quelque chose qui compte beaucoup.
Et ça, c'est peut-être aussi la clé de demain pour l'écologie, c'est-à-dire que ça percole dans le quotidien des gens, quoi. C'est-à-dire que quand ça touche leur quotidien, ils comprennent qu'il faut y aller, que ça va de soi, quoi.
Je suis quelqu'un qui ne réduit pas du tout l'écologie, ni à l'environnement, ni à quoi que ce soit d'autre. Je pense que l'écologie, c'est une éthique globale de responsabilité. Et notre responsabilité, c'est la responsabilité pour demain. Et ici, ce qui caractérise le Trièves, c'est que les gens se battent ensemble pour un avenir. Voilà. Et c'est ça qui me fait... Si je suis heureux en Trièves, c'est parce qu'ici, on se bat pour un avenir.
C'est une très jolie terre de résistance, hein, et ceci, on va dire, depuis le XVIe siècle, parce que vous avez donc des attaches protestantes très fortes dans ce coin-là, et alors c'est pas lié qu'à ça forcément, hein, bien sûr, mais c'était une petite Genève, quoi, donc à l'époque, donc on a quand même bien l'habitude de résister. Dans deux semaines, 23, 24, 25 septembre, à Mainz, vous avez la fête de la transition, donc qui s'appelle Quelle foire. On vous a indiqué, je pense, les informations sur le site de CO2 Mon Amour. Alors ça fonctionne beaucoup avec des circuits courts, ça fonctionne beaucoup avec du bio. Ils ont créé une association qui s'appelle Bio Panier, donc entre autres choses. Grand merci donc à Gérard Lera et à tous les intervenants. À Joël Weber aussi qui nous a bien accueillis à Saint-Sébastien, très joli petit village aussi donc du Trièves. Et puis si vous voulez en savoir plus, vous savez les guides Gallimard, vous en avez un très bien donc sur l'Isère. Et je vous le dis aussi, la semaine dernière, il y avait Jean-Louis Etienne. On a parlé donc du Tarn. Vous avez aussi ce guide Gallimard. Voilà, c'est quand même assez stimulant quoi, de voir ça, hein, Frédéric Denré. Donc, solidarité entre les gens. Il n'y a pas que là. Il y a beaucoup d'exemples. Et d'ailleurs, vous n'hésitez pas à nous écrire par mail, soit par téléphone, 01 56 40 40 35. On prend vos initiatives, hein, on le rappelle. Mais ça bouge beaucoup quand même dans les territoires aujourd'hui.
Oui, qu'est-ce que ça fait du bien, ce genre de reportage. Oui, ça bouge beaucoup. Il y a l'écologie dont on parle, puis il y a l'écologie que l'on fait. Alors vous avez des gens, hommes et femmes, qui avant se contentaient de regarder les paysages et ils ont décidé de se mettre dedans dans les paysages et de les dessiner par petites touches, les leurs. Et donc souvent ils sont paysans et en étant paysans, en coopérant entre eux, en coopérant avec la nature, ils redéfinissent ce qu'est l'écologie, qui est juste une science des relations sociales. Et puis deux, ils entretiennent quoi ? Cette biodiversité dont on a hérité. Et sans eux, cette biodiversité, ces marais, ces zones humides, sans eux, ces grandes prairies finiraient par disparaître. Donc ils conjuguent biodiversité, ils conjuguent patrimoine d'un territoire, ils conjuguent économie, leur propre mode de vie. L'écologie réelle, elle est là et on voit ça de plus en plus. Et moi, ça me réjouit. C'est là où je vois que le pays avance, mais il avance par des gens qui changent. Voilà, je regardais le paysage, je suis dedans et je vais de l'avant.
On va isoler notre maison dans quelques instants avec la loi de transition énergétique. Et puis, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, on a notre nouvelle séquence quand la nature inspire les écrivains. Et nous demanderons à Mark Twain d'intervenir donc tout à l'heure en fin d'émission.
CO2 Mon Amour avec Denis Chessou sur France Inter.
enough to know if I ever was a child. Like a boat on a button like a coat, set free for a while. Well, I jump to jolt my clumsy blood while my white green
agréable, ça aussi, choisi par Muriel Pérez, votre programmatrice sur France Inter. CO2 Mon Amour, c'était Oui le Co. On va parler de l'isolation. Donc, on a cette loi de transition donc, énergétique. Là aussi, ça a été beaucoup, beaucoup d'allers-retours, Sénat, Assemblée nationale. Bon, c'est le jeu normal donc, de la démocratie. Et alors, écoutez ceci, c'est Bruno de Bruttler qui est le président de l'association Maisons Paysannes de France. On va vous mettre le contexte juste après, mais que vous compreniez bien aussi que l'affaire n'est pas simple quand il s'agit d'isoler une maison.
C'est que c'est écologiquement contre-productif. On a des maisons qui sont construites naturellement, à la main, qui sont durables et qu'on va mettre en danger. Hein, donc des maisons en terre, en bois, en torchis, en pierre... Avec ce texte de loi, on va les mettre en danger au profit d'une préoccupation soi-disant écologique, mais qui est au service d'intérêts industriels.
Bon, alors, donc d'un côté, isolation donc, des maisons. On se doute bien que là, on a un réservoir, j'allais presque dire, de perte d'énergie. On rappelle quand même une chose, c'est que c'est quand même le toit qui fuit le plus. Hein, c'est 30%, c'est à peu près la moyenne des fuites d'énergie. Après, il y a eu depuis des années donc, beaucoup de marketing, donc il y a beaucoup de fenêtres et d'huisseries qui ont été reprises. Ça correspond à peu près entre 15 et 17% de déperdition. Puis après, il y a une partie du sol et puis il y a aussi donc, effectivement les fameux murs. Donc, on rappelle quand même le principe maintenant de ce qui a été voté, parce que ça, c'est extrêmement important.
Alors, ce qui a été voté, c'est l'obligation, dès lors que vous avez une surface de ravalement, donc vous faites un ravalement de nid de votre maison, dès lors que la surface ravalée réellement hors les huisseries est supérieure à 50%, la loi vous obligera ou vous obligerait à faire une isolation par l'extérieur. Alors, ce qui, pour un thermicien, est logique, en isolant par l'extérieur, vous isolez vraiment. Vous isolez beaucoup mieux qu'en isolant par l'intérieur et vous conservez ce qu'on appelle l'inertie thermique des murs, c'est-à-dire la capacité des murs à se réchauffer, donc à conserver la chaleur venue du chauffage à l'intérieur. Le seul problème, évidemment, c'est que, un, c'est extrêmement coûteux, parce que l'isolation thermique, il faut refaire, en gros, tout le tour des fenêtres et des portes. Il faut travailler sur les ponts thermiques que sont les fenêtres et les portes, c'est très compliqué. Et puis surtout...
Ça, c'est très important, je n'ai pas cité, mais ce qu'on appelle les ponts thermiques, c'est des fuites incroyables. Ça.
C'est les fuites liées à l'encadrement des fenêtres, c'est lié au fait que les planchers, par exemple, avancent jusqu'à l'extérieur en traversant les murs. Donc voilà, il faut tout couvrir. Donc en théorie, vous le faites. En théorie, l'isolation est meilleure, sauf que, un, c'est très compliqué, deux, c'est très coûteux. Puis trois, vous perdez tout le caractère de votre maison. Alors pour une maison ancienne avec des murs en pierre, comme il y en a beaucoup en Île-de-France, les maisons en meulière, ce sont des murs en calcaire, très inertiques, qui mettent du temps à se réchauffer, mais quand ils sont chauds, ils gardent leur chaleur longtemps. La seule façon de les isoler efficacement, c'est de les isoler par l'extérieur, parce que si vous le faites par l'intérieur, en gros, vous retenez l'humidité, vous empêchez ces murs d'échanger l'humidité. Le problème, c'est que ce qui fait le caractère et ce qui fait qu'on achète une maison en meulière, c'est le fait qu'elle soit une maison en meulière. Et donc, il y a effectivement un vrai danger de voir ce qu'on a vu dans les Trente Glorieuses, c'est-à-dire d'avoir de la maison, d'avoir du bâti standardisé un peu partout, moche, d'avoir la même forme de bâti où, quels que soient les paysages urbains, on est à peu près les mêmes bâtiments, les mêmes maisons. Qui répondront aux normes thermiques, mais qui ne ressembleront plus à rien. Donc on se plaint déjà de l'uniformisation des entrées de ville, on se plaint de l'uniformisation des paysages, et le risque effectivement c'est d'avoir une uniformisation des centres-villes. Or, secteur sauvegardé, il y a un vrai souci contre lequel, alors, il n'y a pas seulement ces associations qui luttent, il y a aussi le Conseil des architectes de France qui est vent debout contre ce décret.
Et donc cet homme-là, donc Bruno Buclair, donc Maison Paysanne de France, n'est pas contre l'isolation.
Non, on a participé à moult études sur la façon efficace d'isoler en respectant un bâtiment ancien. On respecte le bâtiment avec les matériaux biosourcés, naturels, de la chaux, voilà. Donc on n'est pas du tout contre ça, bien au contraire. Nous, on pense que le patrimoine, pour survivre, doit avoir une utilité. Donc on va pas muséifier, comme on nous le reproche de temps en temps, la France entière. On veut que le patrimoine s'adapte, mais qu'il soit respecté, et qu'on ne regarde pas que l'étiquette énergétique.
Il a tout dit. Isoler par l'extérieur, c'est pas seulement faire du polystyrène et un bardage dégoûtant en bois ou en plastique, c'est aussi faire des enduits, comme on faisait avant, chaux, chanvre par exemple, qui respectent à peu près la forme, les encorbellements et l'architecture des maisons.
Au 01 56 40 40 35, la semaine dernière, je vous lançais un appel en vous disant, si vous avez des initiatives, que ce soit donc des start-up, des entreprises, des associations, que sais-je, eh bien surtout ne vous gênez pas. On va s'intéresser maintenant aux déchets de cantine que l'on va se faire, qui vont se faire recycler avec cette start-up. Donc, suite à cette annonce, je vous salue. Bonjour Juliette Franquet.
Bonjour Denis.
Vous êtes à la tête, vous êtes trois en fait, d'une start-up qui s'appelle Love Your Waste. Pourquoi vous n'avez pas mis Aimer vos déchets?
C'est vrai qu'on
a choisi... J'ai rien contre,
On a choisi un nom anglais, c'est un peu la mode dans le monde des start-up aujourd'hui. Et Aimer vos déchets, ça aurait été un peu moins sexy, on a opté pour le nom anglais.
Mais oui, puis il y a le mot love et ça, c'est pas mal. Alors, Aimer vos déchets, surtout, on va dire, dans les collectivités, on a aujourd'hui 70 000 établissements de restauration collective, que ce soit donc les restaurants d'entreprise que vous connaissez, que ce soit vos cantines, notre cantine aussi à Radio France, et qui quand même sont obligés maintenant, par la loi, obligés de trier, de collecter et de valoriser, comme on dit, les biodéchets. Ça représente quand même 15 millions de Français qui jettent par jour 8500 tonnes de biodéchets alimentaires. Alors, vous intervenez, c'était quoi votre idée?
L'idée, à la base, on a vu une nouvelle réglementation du Grenelle 2 qui imposait donc tous ces établissements. Et on avait envie de se lancer dans ce qu'on appelle l'entrepreneuriat social, c'est-à-dire de lancer un projet avec une pérennité économique et un meilleur impact environnemental et social. Donc pendant 9 mois, on est allé visiter des cantines, des usines, des entreprises d'insertion de chômeurs de longue durée pour leur apporter de l'emploi. Et on a conçu cette idée d'un circuit optimal pour mettre en place le tri, pour organiser le transport et une meilleure valorisation des déchets organiques.
Donc vous arrivez dans une entreprise, donc ils ont leur cantine. Qu'est-ce que vous leur proposez? D'abord d'éviter, peut-être d'avoir trop de gaspillage alimentaire?
Oui, tout à fait, ça en fait partie.
On rappelle que c'est 20% à peu près. Sur l'ensemble de la chaîne,
exactement,
en France, c'est 20% de
exactement
gaspillage alimentaire.
C'est une moyenne et peu de gens en fait savent ce qu'ils jettent. Mais il y a beaucoup de gaspillage et il y a des déchets qu'on appelle ultimes qui pourraient être transformés en biogaz, en engrais naturel, par méthanisation. Donc nous, concrètement, on arrive dans une cantine scolaire, un restaurant d'entreprise, un hôpital, dans tous les établissements où des personnes mangent. on regarde un peu comment ça se passe et on les aide à trouver le meilleur moyen. On va mettre une table de tri. On veut que les gens trient eux-mêmes pour qu'ils se rendent compte de ce qu'ils jettent. On installe des poubelles, on fait un planning, on vient 2 fois par semaine pour que ça soit amené dans une usine et on remet un certificat pour prouver que l'établissement est mis en conformité avec la loi du Grenelle 2. Et pour que tout ça marche, et c'est aussi notre idée de Love Your Waste, c'est qu'il faut que les gens aiment leurs déchets, qu'ils comprennent qu'il faut d'abord réduire le gaspillage alimentaire et qu'il y a un impact dans notre consommation et que le recyclage optimal est bien meilleur pour tout le monde.
Alors, c'est pas vous, évidemment, Juliette Franquet, qui allez prendre après votre camion et emmener donc ces déchets, on va dire, ultimes pour aller se faire traiter en méthanisation.
Non, on travaille avec des entreprises d'insertion de chômeurs de longue durée. Donc il faut savoir que le recyclage, c'est une filière d'avenir. Pour les déchets organiques, il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc on a voulu travailler avec des personnes qui sont éloignées de l'emploi pour les former et leur expliquer en quoi ils pourraient retrouver du travail dans la filière des déchets organiques.
Là où c'est très intéressant, c'est que votre idée, c'est que vous êtes une goélette. Je veux dire que vous êtes très très souple, parce qu'en fait, ce marché est très atomisé. On a des acteurs qui sont historiques de taille extrêmement importante, mais dès qu'il s'agit d'aller prendre un peu la pince à épiler et d'aller dans le marché urbain, c'est beaucoup moins leur truc.
Exactement. Les gros acteurs des déchets appellent ça le diffus, c'est-à-dire que pour eux, c'est des petites masses de déchets qui sont un peu partout dans la ville. C'est compliqué pour eux pour y aller, et ils connaissent moins les clients. Alors que nous, on a une approche vraiment dédiée sur mesure. On va à la rencontre du personnel de cantine, on les forme et on croit beaucoup aussi au fait qu'en expliquant l'impact, les gens y participent et avec cœur. D'où encore l'idée de l'amour dans Love Your Waste. Mmh. Et c'est ainsi que les gens, aujourd'hui, il y a 7500 personnes qui trient au quotidien grâce à nous. Et les gens le font et savent pourquoi il faut le faire et ils le font avec cœur.
Qu'est-ce qui vous plaît profondément, vous, Juliette Franquet, parce que donc vous avez une trentaine d'années. Pourquoi vous êtes tournée vers cela, vers les déchets, vers au-delà peut-être d'une niche qui était à prendre, mais...
Moi, j'ai toujours été passionnée des déchets. Quand on a mis en place le tri chez mes parents, et c'était il y a à peine 15 ans, je tapais sur les doigts de ma famille pour qu'ils le fassent bien. Oui. Et ensuite, j'ai compris que c'était mieux de leur expliquer. Donc, c'est un sujet qui m'a passionnée depuis ma tendre enfance. J'ai fait mes études. J'ai travaillé pendant 5 ans en tant que consultante en communication dans le développement durable. J'ai touché à plein de sujets, dont les déchets, l'énergie renouvelable, l'aménagement du territoire. Et j'ai voulu m'impliquer personnellement et avoir un impact concret au quotidien pour construire la société de demain.
Voilà, donc gamine, ça devait être quelque chose donc à la maison. Merci à vous, donc Juliette Franquet. Ils sont en période évidemment aussi de levée de fonds, donc ils continuent. Vous avez tous les éléments sur le site de CO2 Mon Amour, vous en avez l'habitude. Je tiens à vous dire aussi qu'on est rediffusé entre 5h et 6h du matin tous les dimanches. Comme ça, vous pouvez vous réveiller aussi donc avec tout ça. Et avec donc les déchets et les cantines. Il y a quand même des petits trucs hein, pour faciliter les choses, Frédéric.
Oui, on sait très bien que quand on réduit la taille de la cible, on réduit ce que les enfants y mettent dedans et on réduit les déchets. C'est juste un petit truc qui est observé partout. Non, juste une petite incise. Ce problème des déchets alimentaires ne concerne pas que nous, pays gavés de tout. Il concerne aussi les pays pauvres, au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, mais en particulier au Sénégal. Le fait que les routes ne soient pas toutes carrossables, le fait que la chaîne du froid ne soit pas tout à fait parfaite, que la collecte des produits alimentaires ne soit pas bien organisée, fait qu'il y a 30 à 40% de produits qui arrivent sur les marchés dans un mauvais état. Voilà. Donc c'est un problème global sur lequel se penche la Banque mondiale, les investisseurs, le gouvernement du Sénégal, par exemple. Voilà, donc ce n'est pas un problème qui est seulement lié à notre mode de vie, c'est un problème général, majeur, 30 à 40% de pertes dans les pays pauvres.
Absolument. Bon, on vous racontera ça, mais aussi des choses plus rigolotes sur la biodiversité. Oui. Ce sera jeudi à Clermont-Ferrand, je crois. On se
retrouve
tous
les deux. Aux Assises nationales de la biodiversité.
Biodiversité, voilà. Donc, je ne sais plus à quelle heure c'est, mais enfin, bon,
c'est à 18h jusqu'à 19h30.
Ben voilà, vous aurez Tic et Tac là, qui vous racontent donc tout ça. Ce sera absolument très bien. Alors, quand la nature inspire les écrivains, c'est un livre formidable aux édition Plume de Carotte, écoutez.
Thomas Sawyer, va te mettre au piquet dans le fond de la classe. Tu resteras jusqu'à midi.
Bien, monsieur. Viens vite, j'ai besoin de toi, amène-toi.
Pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe?
J'ai repéré un gros cochon sauvage.
Un cochon sauvage?
Ouais, il s'est peut-être enfui il y a quelque temps d'une ferme de la région, mais aujourd'hui, il appartient à personne. Ou plutôt, il est à celui qui l'attrape. Si on peut le capturer vivant, on en tirera un bon prix.
La semaine dernière, c'était donc Colette. Cette semaine, c'est l'auteur de Tom Sawyer, donc Mark Twain, Quand la nature inspire les écrivains. Bonjour, Elisabeth Combre.
Bonjour Denis.
On va faire un petit tour aux États-Unis quand même avec un homme qui s'appelle Mark Twain. Et là, on va rencontrer l'enfant du Mississippi.
Mark Twain, ça a d'abord été un peu un sale gosse, prêt à faire tout ce qui lui était interdit, en particulier dans la nature qui lui était largement ouverte autour de chez lui.
C'est une très bonne formation.
Oui, ça a donné de grands écrivains de nature. Et donc il vit sur la famille, sur ce qu'on appelle la frontière aux États-Unis, cette zone qui avance vers l'ouest, à mesure que les pionniers défrichent et s'installent dans la grande plaine vers l'ouest. Donc il a raconté ses fantastiques aventures, il les a romancées dans Tom Sawyer, effectivement, qu'on connaît beaucoup en France. On connaît un petit peu moins le reste de l'œuvre de Mark Twain. Notamment, avant Tom Sawyer, Mark Twain s'était fait connaître par ses textes humoristiques et satiriques et puis par son récit de voyage sur un mode décalé, sa ruée vers l'ouest, au Nevada et en Californie. Alors le livre est paru en France sous le titre « À la dure ». Alors on est dans les grandes plaines, on est dans les chariots avec les pionniers. Et alors Mark Twain, il a inventé quelque chose quand même, c'est un humour à l'américaine qu'il a transmis à des Tex Avery, à des Chuck Jones, l'inventeur de Bip Bip et le Coyote.
Ah ben voilà, c'est ça. Quand on parle du Coyote, en fait, il a été totalement inspiré par Mark Twain.
Un extrait très court, mais on entend dans l'instant un bruit impétueux, une longue déchirure fend l'atmosphère et voilà que le chien se retrouve seul, abandonné au milieu d'une vaste solitude. Et le bruit impétueux, c'est le Coyote qui est parti à toute vitesse. On est exactement dans l'univers des dessins animés. Et donc, il y aura beaucoup de descendants. C'est une lignée d'humour américaine là qui démarre avec Mark Twain.
Et puis quand même, c'est un homme qui fait grimper les buffalos, les buffles aux arbres.
Ah oui, il peut tout se passer chez Mark Twain. Un buffalo qui poursuit un malheureux pionnier à cheval et le pionnier n'a qu'une chose à faire, c'est de se réfugier dans le seul arbre dans toute cette grande plaine, et ben au bout d'un moment, il voit grimper le buffle à l'arbre. Les autres lui demandent évidemment, tu nous racontes n'importe quoi. Mais comment ça, n'importe quoi? Tu n'y étais pas. Donc c'est tout à l'avenant comme ça. Et puis de l'humour, et puis du parler des hommes de l'Ouest. Mark Twain, il nous décrit un homme, des hommes et des femmes qui vivent à la dure, qui sont un peuple rude, confronté à une nature immense. On est dans la période où les États-Unis, où cette Amérique du Nord découvre son Ouest. Les grands parcs viennent
Yellowstone.
Commencent à être Yellowstone, Yosemite. On a le Grand Canyon. Donc les monuments européens sont une chose et les monuments américains sont ces grandes constructions géologiques, constructions de la Terre elle-même. On y fait des photos, on met en image et Mark Twain a participé à faire tourner le regard de ses compatriotes vers cet Ouest. Et c'est toute l'identité américaine c'est une partie de l'identité américaine qui se construit là.
Il y a aussi Elisabeth Combe, ce drame de l'écrivain américain qui à la fois rêve de nature inviolée et en même temps il sait qu'il détruit la nature avec cette conquête et cette avancée des villes.
L'Américain dans la nature sauvage est un paradis perdu. C'était l'Américain des premiers temps. C'est une dimension très importante de la littérature américaine. Cet homme des bois, cet homme chasseur, mais chasseur d'une manière respectueuse des animaux. Même si on chasse, c'est pour un besoin limité. C'est cet homme des grands espaces, cet homme d'extérieur qui effectivement pleure un peu le paradis perdu qu'il a lui-même détruit.
Je vous renvoie donc à ce Mark Twain, Quand la nature inspire les écrivains, aux éditions Plume de Carotte. À bientôt, merci Elisabeth Combe.
Merci Denis.
La semaine prochaine, ça devrait être normalement Pablo Neruda, donc Quand la nature inspire les écrivains. Merci à Alice Berger, à Stéphane Boja, à la technique aujourd'hui, à Camille Blanès, notre assistante, à Xavier Pestugia qui a réalisé l'émission, à Anne Gouzon qui nourrit les sites de CO2, le podcast, abonnez-vous au podcast, la rediffusion, je vous l'ai dit, entre 5h et 6h. La semaine prochaine, on fera un petit tour dans le Lot, je ne sais pas si on va vous parler du buis, si on va être avec les monsieur et madame Bourguignon qui vont nous parler des sols et de la vigne, enfin voilà, on est en train de monter donc tout ce chapiteau. Curieux de nature, c'est à 7h55 demain matin avec Alain Bougrain-Dubourg chez Patricia Martin, Nathalie Fontrelle tous les jours à 7h20, 01 56 40 40 35. Vous en avez donc l'habitude. Et puis l'actu du Mont Petit Loup, me semble-t-il, moi j'en suis sûr, ce sera demain après les petits bateaux à 19h54. Bon, on vous a parlé de l'extinction des espèces, et pas d'une gaieté folle non plus, ce jeu-là, mais enfin, il est là. Racine Extinction, ça c'est un DVD qui vient de sortir chez Discovery Channel, qui parle bien de ce sujet. Les guides, bon, ça vous en avez l'habitude, les guides touristiques, Calimard ou d'autres, Terre Sauvage, donc, moi, je vous renvoie donc à ce numéro. La planète des singes, un tour du monde inédit à la rencontre des primates méconnus, et puis aussi les sentiers sauvages en Camargue, et puis aussi une façon naturaliste, on va dire, de remonter le temps en Turquie, et puis regarder, parce que vraiment c'est une nouvelle formule qui est très intéressante, avec évidemment les photos qui sont quand même toujours les vedettes des numéros de Terre Sauvage.